Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est une façon de gouverner ou de diriger qui s'appuie sur l'échange, la discussion, le débat, pour ne pas dire la communication. Il faut parler. Les dizaines, les centaines de débats qui ont suivi le mouvement des Gilets jaunes en sont le meilleur exemple. Ils n'ont pas manqué de rappeler, à leur tour, la grande marche à travers le pays, lancée par le candidat Macron en 2016, visant à recueillir porte à porte 100 000 témoignages anonymes pour construire, je cite, « un plan d'action pour transformer le pays ». À Radio France en pleine crise et dans d'autres secteurs en transformation, les salariés sont abondamment appelés à discuter, à échanger avec les directions. C'est ce qu'on appelle la pédagogie des réformes, qui sous-tend qu'elles ne sont pas comprises et qu'elles ont besoin d'explications à défaut d'amendements ou d'abandon. À ces occasions, les citoyens, salariés ou anonymes ont certainement la possibilité de s'exprimer. Ils sont écoutés, mais sont-ils entendus ? Leurs avis sont-ils pris en compte concrètement ? Bref, à quoi ça sert ? Dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'épandage des pesticides, il se trouve que de nombreux citoyens ont donné leur avis. Début septembre, le gouvernement a proposé un arrêté fixant à 5 ou 10 mètres la distance minimale entre les habitations et les zones de pesticides. La consultation publique, lancée en ligne sur le sujet, a battu tous les records avec plus de 53 000 contributions, explique Le Monde. La proposition y a été jugée au mieux une blague, au pire une provocation, par les défenseurs de l'environnement, continue Le Quotidien qui a épluché les commentaires. Les citoyens se sont donc prononcés massivement contre ce projet. Il est vrai que le parti Europe Écologie Les Verts avait, je cite, « appelé à inonder de commentaires » et que de nombreux arguments étaient fournis par le site même du parti. Mais une fois la consultation close, après qu'on a bien écouté et lu les commentaires, l'arrêté a donc été pris en l'état, ou presque, et mis en application depuis le 1er janvier, il y a quelques jours. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, on vous raconte ce qui s'ensuit quand les citoyens ne sont pas vraiment entendus et comment parfois ce sont les maires qui font le boulot. Un récit de Karine Lelouette.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Si je veux faire un arrêté pour les crottes de chiens, ça, il n'y a pas de souci. Si je veux faire un arrêté pour la circulation, il n'y a pas de souci. Et quand je veux protéger mes citoyens, alors on me dit, ah, c'est pas à vous, c'est au ministre de l'Agriculture. Mais quand le ministre de l'Agriculture ne fait rien, ben nous, on fait à leur place.
La chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine... Je me rappelle très bien le jour où j'ai entendu à la radio la colère de Daniel Cueff, le maire de Langouette, un petit village breton. Ce qu'il avait fait à la place du gouvernement, c'est d'interdire aux agriculteurs du coin d'utiliser des pesticides à moins de 150 mètres des maisons de sa commune. Sauf que le droit d'épandre ou non des produits phytosanitaires dans des champs, ça ne relève pas de la compétence d'un maire. Quand Daniel Cueff a publié son arrêté, l'État ne s'est pas laissé faire. Et le maire, lui, s'est énervé. Quand j'ai entendu son coup de gueule, Daniel Cueff s'apprêtait à défendre son arrêté devant le tribunal. Franchement, ce matin-là, au volant de ma voiture, ça m'a surprise. Ce petit maire qui bravait l'État et les paysans de sa région, berceau de l'agriculture intensive. D'ailleurs, le jour du passage au tribunal, ces agriculteurs-là avaient bloqué Langouette avec leur tracteur, furieux que le maire leur dise comment faire leur boulot. Alors j'ai suivi les rebondissements judiciaires comme une saga. Le 23 août, le président Macron qui soutient du bout des lèvres le maire breton.
Je le soutiens dans ses intentions, mais je ne peux pas être d'accord quand on ne respecte pas la loi, c'est normal.
Et le 26 août, l'arrêté suspendu par le tribunal administratif de Rennes, avant d'être annulé purement et simplement le 25 octobre. Fin de partie pour le maire de Langouette. Ou presque. Parce que dans son sillage, des centaines d'autres élus ont pris des arrêtés similaires. Alors j'ai voulu voir comment ça se passait dans un de ces villages résistants. Est-ce que c'était si binaire que ça ? Des combats de maires écolo courageux contre des agriculteurs butés, rétifs au changement ? Me voilà à Ingres, dans la périphérie d'Orléans. Le maire Christian Dumas y a aussi pris un arrêté anti-pesticides en octobre. Ici, il y a des petits pavillons, posés le long de routes rectilignes et des champs tout autour. Depuis plusieurs années, des familles venues de la ville s'installent pour profiter des charmes de la campagne et de tout ce qui va avec.
Oui, j'ai des gens qui me disent, bah, écoutez, les gens qui viennent habiter à Ingré, bah, il faut qu'ils prennent le bon et le moins bon. Et dans le moins bon, il y a les cloches de l'église qui sonnent, il y a le coq qui chante et il y a les produits phytosanitaires. Voilà. Bon, mais moi, je dis que les cloches et le coq ont peu de morts sur la conscience, à ce jour du moins. Les produits phytosanitaires, je serais sans doute un peu plus perplexe. Voilà. Si j'ai pris cet arrêté, c'est surtout parce que le discours de l'État m'énerve. L'État nous dit on va reculer une éventuelle interdiction de ces produits-là, alors que dans le même temps, l'État, avec la loi Labbé, qui interdit désormais d'épandre des produits phytosanitaires sur le domaine public, nous interdit d'utiliser ces produits sur les trottoirs. Alors, moi je ne sais pas, mais est-ce que le produit est dangereux sur le trottoir parce que le trottoir est à côté de l'habitation? Mais par contre, ce même produit de l'autre côté de la maison, utilisé par un agriculteur, lui n'est pas dangereux? Il faut m'expliquer. De plus, en 2008, quand on est arrivé en responsabilité, on avait des nitrates et des pesticides dans l'eau des forages municipaux. L'ARS, et donc l'État, m'a dit « Si vous ne traitez pas vos pesticides, je vous interdis de délivrer de l'eau aux ingrènes et aux ingrènes. » L'Agence régionale de la santé, un organisme d'État. On a investi 2 200 000 euros pour traiter nos deux forages municipaux. Alors, l'État nous dit « Les pesticides sont dangereux dans l'eau, par contre dans l'air, il n'y a aucun problème. » Voilà. Donc ça, ça m'énerve. Donc j'ai pris un papier, un crayon, j'ai fait l'arrêté, je l'ai signé, je l'ai envoyé au préfet, voilà, c'est simple, hein. Le préfet a déféré devant le juge des référés pour demander la suspension. Et le tribunal, effectivement, l'a suspendu. C'est pas sur le fond pour l'instant. Hein. Il dit seulement, vous, monsieur le maire, vous avez pris une décision qui n'est pas de votre compétence. Le devoir de précaution que vous avez mis en avant, seul l'État peut le mettre en œuvre. Donc maintenant, le juge va statuer sur le fond.
C'est quand ?
On ne sait pas. Donc on va attendre. 150 mètres avec des vents, ça peut peut-être porter plus loin. Après, il faut toujours fixer une barrière. Voilà, 150 mètres, tout paraît quand même une distance qui met un peu à l'abri les lieux de vie.
Voici le nœud de la discorde, la distance. Les maires ont imposé des bandes de 150 mètres sans traitement près des maisons. Mais l'État, lui, a tranché différemment. Depuis le 1er janvier, les agriculteurs doivent respecter des couloirs de 20 mètres le long des habitations, pour les produits les plus dangereux. Pour tous les autres, c'est 5 à 10 mètres, selon le type de culture.
J'ai rappelé au préfet que le record du monde du cracher de noyaux de cerise était à 12 mètres. On crache un noyau de cerise à 12 mètres, si vous voulez, on va nous faire croire qu'avec à 5 mètres, on est protégé. Enfin, sincèrement, ouais, 5 mètres, c'est mon bureau, là. Bon, donc, voilà, je crois que c'est... Les réactions, j'ai eu beaucoup d'insultes, genre que je fais de l'agribashing, que je suis un bobo qui ne demande pas comment poussent les légumes qu'il mange, voilà, bon, enfin bref, que je suis irresponsable, enfin bon, j'en passais des meilleurs. Mais j'ai eu aussi beaucoup de réactions positives de gens qui m'ont dit bah, il fallait prendre ses responsabilités, vous les avez prises, quoi. Et puis après, j'ai eu les agriculteurs qui sont venus me voir, hein, donc ils m'ont reproché de ne pas les avoir concertés avant. J'aurais très clairement dit que ça ne servait à rien de les concerter, ils étaient contre et moi j'étais pour. Bon. Moi je ne veux pas que dans 20 ans on vienne me voir en disant « Monsieur le maire, vous avez été lâche, vous n'avez rien fait. Hein, vous saviez, vous n'avez rien fait. » Je ne veux pas qu'on me dise ça. Voilà, c'est tout.
Les experts, eux, ne savent pas, mais ils ont de fortes présomptions. Ils suspectent, par exemple, certains pesticides de favoriser l'apparition de la maladie de Parkinson ou de cancer de la prostate chez les riverains. D'autres études font un lien entre le développement de leucémie, de retard cognitif ou de troubles du comportement chez les enfants dont la mère a passé sa grossesse à proximité des champs traités.
Je sais bien que c'est pas parce que le maire d'Ingré va prendre un arrêté que ça va révolutionner le monde. Mais depuis, j'ai une collègue au Blanc qui a pris ce même arrêté. Depuis, il y a eu plein de maires qui ont pris cet arrêté. Plus on sera, plus on en parlera et plus les choses avanceront.
Parmi les riverains de champs agricoles que le maire veut protéger, il y a Alain, mandataire judiciaire, qui vit à Ingré depuis 20 ans.
Bonjour, vous allez bien ?
Oui.
Je le rencontre dans son bureau, au centre du bourg. Sur une carte, il pointe du doigt les contours de sa maison.
L'agriculteur a son terrain qui est là, là ici. Effectivement, lui, il fait comme il a toujours fait, quoi. Donc il envoie ses produits et il met ça en limite de mon grillage. Et voilà, s'il y a le moindre coup de vent, et ben ça vient jusque chez moi, quoi. Et comme on est sous les vents dominants, ça vient 9 fois sur 10 dans mon terrain. Voilà, tous les ans au printemps, ma pelouse est jaunie, tous les framboisiers ont crevé, voilà. On rentre dans la maison, le linge, si on l'a mis à sécher dehors, on le ramasse aussi. Voilà, donc on ferme les fenêtres et puis on attend une journée ou deux que ça... Voilà, je vais pas aller me balader plus que ça dans le jardin et je vais pas me balader plus que ça dans les chemins, quoi. Quand je fais mon footing, que je sens que ça pue, eh ben, je le raccourcis, quoi. Ça sert à rien d'aller s'en mettre plein les poumons, quoi. Donc, on est informé de rien, quoi. Donc on part, la fleur au fusil, on va se faire notre tour et voilà, on s'avale les cochonneries, quoi. Et la question de l'usage des terres, l'utilisation de l'air capturée par quelques personnes, quoi, que sont des agriculteurs qui se posent pas trop de questions et qui fuient même un peu la discussion autour de ça, quoi.
Mais Alain l'avoue, il n'a jamais non plus frappé à la porte des agriculteurs pour discuter, de peur que ça dégénère, dit-il. Pareil pour Jean-Marc, un autre riverain, qui habite une maison coquette un peu plus loin. Jean-Marc est fils d'agriculteur, et pourtant, pour lui aussi, le dialogue est rompu avec les paysans du coin.
Moi, personnellement, l'agriculteur qui est derrière, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Je connais son nom, c'est tout, mais je le croiserai dans la rue, je ne le reconnaîtrai pas. Moi, je le vois passer avec ses engins énormes, de toute façon, et il court, quoi. De toute façon, il court. Aujourd'hui, c'est un champ qui est en repos encore, là, parce que c'est les repousses de blé qui ont été moissonnées cet été, là. Et puis, il n'y a pas touché encore. Il n'est pas... Avec la pluie qui est tombée à l'automne, je pense qu'il attend le printemps pour le mettre en culture, mais je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Au moins, une chose qui est à peu près sûre, c'est qu'il va d'abord passer du glyphosate, ça, c'est sûr. Pour désherber. Ouais. Parfois, l'odeur, je la reconnais quand même. C'est une bonne odeur. Ben, c'est peut-être parce que c'est l'odeur de mon enfance. Hein. C'est pas un produit qui est âcre, qui vous picote les yeux, le nez. Non, non. C'est une bonne odeur d'étable, un peu épaisse, un peu chaude, là, oui. Oui, oui. C'est agréable, d'ailleurs.
Et elle vous fait pas peur, du coup ?
Si, bien sûr, puisque je sais que c'est une cochonnerie. Donc, bien sûr que ça me fait peur. Mais n'empêche que c'est une bonne odeur tout de même. C'est peut-être parce que c'est une odeur que je connaissais pendant... J'étais tout minot, tout gamin. Mon père utilisait des produits. Souvent, je lui rappelle ça parce qu'aujourd'hui, il a 94 ans. Je lui dis, tu te souviens, tu descendais de ton tracteur, tu étais de la couleur des produits que tu venais d'épandre et tu portais sur toi l'odeur. Ça, c'est un souvenir que j'ai. Aujourd'hui, mon père, même s'il a 94 ans, il est quand même atteint d'un cancer. C'est un lymphome de Waldenström. Ce cancer, d'après les statistiques, il y a un gros pourcentage d'agriculteurs qui sont sujets à cette maladie. Le fait d'avoir un peu trop tripoté des produits méchants, d'un peu trop près, quoi. Voilà.
Pendant toute son enfance, Jean-Marc a entendu son père se plaindre de son boulot. Qu'il faisait trop froid, trop chaud, trop pluvieux pour que la récolte soit bonne. Alors quand son père est parti en retraite, Jean-Marc n'a pas repris la ferme et a intégré un bureau d'études de bâtiment. Quelques années plus tard, étonnamment, il s'est quand même installé en bordure d'un champ. À l'époque, c'était un petit paysan qui cultivait derrière chez lui, en polyculture.
Moi, je me souviens, l'agriculteur à qui on a acheté la maison... Voilà, il cultivait les champs derrière. Bon, quand je le voyais, je faisais signe de la main, il s'arrêtait, il venait prendre un café à la maison, quoi. C'est vrai qu'il passait avec ce qu'on appelle la tonne à traiter. Mais on n'en faisait pas vraiment de cas. Non, pas, voilà, c'était comme ça. Mais moi qui étais très branché biodiversité, voilà, il y avait une... C'était très riche encore. Il n'y avait pas de soucis. Maintenant, je dis pour plaisanter, mais il y a... C'est pas grave, tout va bien. Il y a encore des coccinelles, j'en ai vu une l'année dernière. Mais quand ils épandent derrière chez nous, et puis que vous voyez une hécatombe de bourdons et d'abeilles dans le jardin, c'est... Alors, je mesure pas, je sais pas, mais c'est comme le cancer de mon père. Voilà, J'ai des soupçons quand même, j'ai des soupçons. Bien sûr, je suis inquiet pour moi.
Imaginez demain, il y a 150 mètres de protection là, devant votre maison.
Ben, je m'en réjouirais si ça existait. Après, comment l'appliquer ? De toute façon, ça ne pourra pas se faire sans concertation, sans discussion, sans persuasion. Alors, c'est ce qui m'angoisse le plus, parce que je me dis que c'est un travail de longue haleine, de long terme, alors qu'il y a urgence.
Le maire a prévu une rencontre entre agriculteurs et riverains, en janvier. Mais en attendant, je suis allée voir les agriculteurs, justement. J'ai commencé par Jackie Fouché, le voisin de Jean-Marc. Ouais. Jackie est sur le point de céder à ses deux fils les rênes d'une ferme énorme, de 600 hectares. Si l'arrêté était finalement validé par le tribunal, ce sont 250 hectares acquis au fil du temps que la famille pourrait perdre, assure-t-il. Alors, quand début octobre, il a lu dans le journal que le maire avait pris un arrêté, il est allé le voir.
C'est ce que j'ai dit au maire. On est de toute façon, ce genre de choses, ça ne va pas arranger les relations entre les riverains et nous. Hein. Il y a des gens qui râlent, des gens qui se pincent le nez, des gens qui nous font des bras d'honneur. Enfin, bon, on a des menaces, on en a. Hein. On en a tous les ans. Dès qu'on sort le pulvée, de toute façon, on est des pollueurs, on est... On peut comprendre les inquiétudes des riverains, tout à fait, mais nous, justement, on essaye de ne pas épandre les produits le soir après 17h autour des maisons, ni le samedi ni le dimanche. On traite à bas volume, on traite justement quand il n'y a pas de vent, parce qu'on épand quand il n'y a pas de vent, de toute façon, c'est les normes. On épand le plus bas possible par rapport à la culture, pour éviter que ça parte trop loin.
Est-ce que quelquefois ces produits que vous avez utilisés, ils vous ont fait peur ? Est-ce que des fois vous vous dites que votre santé en a pris un coup ou...
Alors c'est sûr que de toute façon, les produits qu'on a utilisés il y a 15-20 ans, oui, c'était des produits qui étaient très néfastes. Avant, on utilisait des insecticides. Un insecticide tuait tous les insectes sans distinction. Maintenant, on a des insecticides vraiment bien spécifiques pour tel ou tel insecte. Alors dire que les autres insectes, ça les rend pas un peu malades, on va dire entre guillemets, ça j'en sais rien.
Mais est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce que ça aurait pu provoquer sur votre santé par exemple ?
Non, je pense pas, parce que je me suis toujours protégé quand même avec le masque, les gants. Par exemple, mon père, oui, je l'ai vu faire, lui à main nue, respirer au-dessus du pulvée quand il versait les produits, revenir avec les mains toutes jaunes, mais on se protège quand même depuis 20-25 ans. D'accord. Mais avant, non.
Et donc vous pensez que les craintes des gens, elles sont pas justifiées ?
Non, maintenant non. C'est vrai que Il y a une odeur qu'on peut, quand on épand certains produits, il y a des produits quand même qui sentent très fort. Et ça, je pense que au niveau des firmes de produits phyto, ceux qui vendent les produits, ils doivent faire attention à ça, mettre au pire un additif dans les produits pour neutraliser un petit peu des fois certaines odeurs. C'est l'odeur qui fait peur. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé de ça, mais de mettre un additif dans les produits.
Pour Jackie, grâce aux progrès techniques, les produits n'empoisonnent personne. C'est aussi ce qu'assure Dominique Letrône. Lui habite un peu plus loin, à Chingy, une maison qu'il a construite lui-même en bordure de ses champs de céréales. Dominique a accepté de me rencontrer, mais à condition qu'un dirigeant de la chambre d'agriculture l'accompagne, Alexandre Nioche.
Bonjour monsieur.
Il n'est pas arrivé Alexandre ?
Ah, pas,
il va arriver.
J'imagine. Vous cultivez juste derrière là ?
Ouais, bah, nous,
On s'installe autour de la table. Et très vite, il est question de l'arrêté du maire.
J'ai reçu un courrier comme quoi il avait fait un arrêté interdisant l'usage des phytos à moins de 150 mètres des maisons. Donc, sans nous prévenir à l'avance et de nous consulter, c'est un peu antidémocratique. C'est plus de la dictature, à mon avis. Voilà. C'est pas comme ça qu'on procède. Moi, ça représentait plus d'un tiers de ma surface. Hein, donc après... autant changer de métier. Hein. Au fil du temps, je pense que les gens, ils sont inquiets et ils posent des questions qu'ils ne nous posaient pas avant. Mais bon, ils veulent être rassurés, c'est tout. Ils sont pas... Une fois, il y avait une dame, j'étais en train de rincer mon pulvée dans un champ. Elle s'arrête, elle m'aime boire, et mettait la main devant sa bouche, tout ça. Ben, j'ai dit, il y a un problème. Elle dit, ouais. Ben, j'ai dit, vous savez ce que je fais ? Je suis en train de traiter à l'eau. Elle me dit, ah bon, comment ça ? Ben, j'ai dit, oui. J'ai expliqué, je rince mon pulvée, donc il y a pas de risque. Et puis, elle est partie. Bon, voilà, quoi. Rassurée. Mais je lui ai dit, vous savez, les premiers concernés, c'est nous. Si c'était vraiment dangereux, il y a longtemps qu'on serait mort. Hein. Alors que bon, je pense que l'espérance de vie des agriculteurs, elle est une des plus élevées en France, faut pas l'oublier.
Pour les précisions, c'est Alexandre Nioche qui reprend la parole.
Personne n'a jamais dit qu'il fallait en boire, et comme n'importe quoi, on voit, il y a de l'eau de Javel qui traîne dans les cuisines, des choses comme ça. C'est la dose qui fait le danger. Et aujourd'hui, les statistiques montrent que les agriculteurs sont moins malades, ont moins de cancers, notamment, que le reste de la population.
Ces chiffres-là sont tirés de l'enquête Agrican, qui suit 180 000 agriculteurs depuis 15 ans. Selon elle, les exploitants déclarent effectivement moins de cancers, peut-être en partie parce qu'ils fument moins. En revanche, ils sont beaucoup plus touchés par certains types d'entre eux, des myélomes, des lymphomes, des cancers de la prostate, qui pourraient être liés, selon les scientifiques, aux pesticides.
On reste raisonné, on traite que si il y en a besoin, ça fait. C'est ce que j'expliquais à un monsieur. Nous, quand on met des fongicides, c'est comme vous, quand vous êtes malade, vous prenez un sirop pour la toux, c'est pareil. Donc on peut pas s'en passer. Si on veut faire de la qualité, on n'a pas le choix que d'employer des produits phyto. Sinon, après, on a des réfactions automatiquement. Hein, bon. C'est-à-dire, sur la marchandise qu'on allait livrer, ils nous le payent moins cher. Du fait qu'on a, il y a des normes de qualité à respecter.
Imaginons que quelqu'un s'installe ici en bio et arrive à vous convaincre que, par exemple, on pourrait gagner plus d'argent en faisant du bio. Est-ce que ce serait quelque chose que vous pourriez envisager ou c'est juste impossible ?
Non, pour moi, psychologiquement, je suis pas prêt. C'est pas dans mon ADN, comme on dit, non. Pour moi, le conventionnel, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Et ça sera comme ça, jusqu'à la retraite.
À un gré, les agriculteurs assurent que se passer de pesticides, c'est impossible. Pour faire face aux aléas météo, assurer un bon rendement et tenir bon face à la concurrence des autres pays. Alors je vais voir Antoine Faucheux. À 40 km d'un gré, dans les grandes plaines de Beauce, lui exploite 70 hectares en bio.
Une ferme bio ou pas bio, c'est plein de machines.
Il le rejoint dans son bâtiment d'exploitation au pied de ses machines. Antoine cultive du blé, de la luzerne, du soja, du maïs ou encore de la betterave et des lentilles.
Ils sont où vos champs là ?
Alors il y en a vraiment pas loin du tout, à 100 mètres. En fait, moi, je fais le tour du village. J'ai le champ en face de l'école, j'ai le champ en face de tous les pavillons du coin. Donc, je vous avoue que le fait que je sois en bio, ça a plu à beaucoup d'amis, même des gens qui ne mangent pas bio.
On y va ?
On se dirige vers la maison d'Antoine. Pendant le trajet, son téléphone n'arrête pas de biper à chaque message reçu.
Depuis que je suis passé en bio et que je fais de la vente directe, alors là, ma vie a changé. Maintenant, c'est téléphone, on m'appelle tout le temps, il y a toujours des choses. Les gens se posent beaucoup de questions sur leur alimentation et du coup on est bien sollicité. Et puis cette histoire de pesticides avec les voisins a fait beaucoup parler les gens et je pense que c'est bien qu'aujourd'hui on mette tout sur la table et qu'on se pose enfin des questions. Enfin, j'ai pas les réponses forcément parfaites à ces questions, mais au moins qu'on se pose des questions. Là on a le futur maire dans la voiture, pareil, lui il est pas en bio, il est agriculteur, mais il se pose des questions.
C'est vrai ?
Ouais, son fils il veut peut-être mettre en bio des champs. Je suis venu me voir pour ça. Donc moi j'ai grandi à la ferme à Pithiviers-le-Vieil. Mon père est agriculteur depuis toujours. Donc il y avait une ferme de 103 hectares à l'époque. On faisait betterave, blé, orge de printemps et du colza. En gros on faisait 4 cultures. Donc en conventionnel le but c'était de pousser la machine et grâce aux produits de traitement on protège nos plantes. Vu qu'on les pousse tellement on leur met beaucoup d'engrais. Et vont tomber malades. Ils sont tellement nourris, nos plantes, qu'elles tombent facilement malades. Donc, on va les biberonner avec plein de produits de traitement. On va leur mettre plein de trucs pour les protéger, pour avoir le plus de rendement possible. C'était la logique à l'époque. Sortant de la guerre, mon père, on lui a poussé à ça dans ses études. Il se posait pas d'autres questions. L'agriculture biologique, il connaissait à peine. Et personne s'y intéressait dans la région, voire on se moquait des agriculteurs biologiques. Donc, chronologiquement, moi, j'arrive à la ferme en 2006. Moi, j'avais vraiment cette peur de la chimie. On a tellement eu de copains qui ont pas réussi à faire d'enfants, applicateurs de produits de traitement. Moi, j'avais envie de faire des enfants. Donc, moi, quand je me suis installé, la première chose que j'ai fait, c'est acheter un bon masque. Et j'ai toujours traité avec un masque. Combinaison complète, gants. Mes collègues se moquaient de moi, disant que j'avais l'air d'un cosmonaute et que ça faisait peur aux gens. Moi-même, j'avoue que c'était dur de supporter le masque pendant 3 heures. Mais je sais pourquoi je l'ai fait. Donc, moi, j'étais toujours tellement gêné quand je voyais les passants arriver et que moi, j'étais en train de traiter. Je leur disais toujours au loin, mais restez là, attendez, ne passez pas. Pour moi, fallait pas passer. Donc quand je vois un coureur qui arrive, ou quelqu'un qui promène son chien, qui se prend des vapeurs en direct, ça me fait mal. Ça devait être un vendredi matin, j'étais en train de traiter. Et j'ai une voisine qui sort, elle doit avoir 65 ans, qui me fait des bras d'honneur. et qui m'insultent de tous les noms. Moi, je suis dans mon tracteur avec mon scaphandre pour traiter. Je comprends vite parce qu'elle se bouche le nez en me montrant que ça pue mon produit. Et là, j'ouvre mon carreau, elle dit « Vous avez tué ma tortue et mes tuyas avec vos saletés de produits de traitement. » Donc en fait, ça m'a beaucoup travaillé parce que savoir que peut-être ma pratique pouvait rendre les gens malades, ça m'a vraiment empêché de dormir. On se recroise un an plus tard au supermarché, on se reconnaît, c'était vous, oui, d'accord. On se met à parler, je dis « Madame, excusez-moi, franchement, je comprends que vous n'aimiez pas que je traite. Et j'avoue que vous m'avez fait réfléchir. » Et je vais mettre ce champ-là en bio en premier, parce que déjà, quitte à mettre un champ en bio, autant que je mette le champ qui est le plus près des maisons. J'avais un champ, ce champ-là qui me posait problème, et un champ en face de l'école où il y a mes enfants. Elle était quand même très contente. D'autres voisins encore plus contents.
Le scénario semblait parfait. Sauf que ce n'est pas si simple de passer en bio. Il faut acheter de nouvelles machines, employer du personnel, et les aides de l'État censées aider à la conversion tardent souvent à tomber.
Je n'étais pas persuadé à l'époque. Franchement, je n'étais pas du tout sûr de passer le cap et de mettre tout en bio. Je me demandais si je n'allais pas rester conventionnel et juste un essai, quoi. Et mon père, en 2017, en gros, est tombé malade. Il a eu un lymphome, celui qui est reconnu maladie professionnelle pour les agriculteurs. Donc je me suis occupé de lui pendant un an. Il a manqué de mourir dans mes bras. Aujourd'hui, il va bien. Et j'avoue que ça a été le déclic pour moi, de me dire que si cette application de produit sur lui l'a mis dans cet état-là, bah pour moi, c'était pas possible de continuer. J'ai pas envie de finir comme ça. Et j'ai pas envie de créer ça chez d'autres aussi. En bio aujourd'hui, je peux toucher mes semences, je peux toucher mes engrais, sans me dire que je suis en train de me polluer. Et j'ai vraiment un rapport à mon travail qui a changé, quoi. Avant, j'avais l'impression d'être chimiste, apprenti chimiste, quoi, apprenti sourcier même. Donc maintenant, vraiment un grand plaisir d'aller au boulot, donc je pense que mon père le ressent. Il se moque toujours un peu du bio pour rigoler, parce que c'est culturel. En beau, c'est faux, c'est culturel. Donc pour lui, c'est un peu fou, et en même temps, il est assez fier et excité comme un gamin de se dire « En fait, ça marche !» Moi, économiquement, pour dire franchement, je pense qu'en bio, je ne gagnerai pas moins. Par contre, je travaille plus, parce que où je me passe des désherbants et de tous ces produits de traitement, je le compense en grattant un peu plus ma terre. Je ne sais pas si je serai plus riche ou moins riche, rien que le fait d'avoir une façon de travailler vertueuse pour l'environnement, pour moi c'est tellement enrichissant, de pouvoir me regarder le matin en me disant « Écoute, déjà tu te pollues pas toi-même, tu pollues pas les autres, j'ai pas envie de me flatter, j'ai juste envie d'être bien dans mes baskets. » Closed my door, forgot my key. Missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you.
C'était des pesticides et leurs arrêtés, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Christian Dumas, Jacques Fouché, Dominique Letrône, Alexandre Nioche, Alain Jean-Marc, l'association Ingré Orme 2030 et l'association Nous Volons des Coquelicots. C'est Aurélie Marseille, également Camille Richir qui ont assisté à la production de cette émission.